Radioscopie.
Michel Tournier.
Jacques Chancel. Michel Tournier, on fixe d'abord le décor. Nous sommes au premier étage du ciel, ici aux Tuileries. Vous pouvez vérifier immédiatement que la pyramide du Louvre n'abîme pas du tout ce site classé, alors que l'on aurait pu le croire. Quelle est votre première impression ?
Elle est excellente, mais à première vue, voyez-vous, il faut que je m'habitue à cette pyramide. Je la voyais un peu plus basse, un peu plus écrasée. Oui. Et puis alors, je vais faire une proposition, n'est-ce pas ? Je pense qu'il faudrait retourner le quadrige de l'Arc de Triomphe. Parce qu'il regarde vers l'est, c'est-à-dire vers le Louvre, et je pense qu'il devrait regarder vers la vaste avenue de la Concorde et des Champs-Élysées.
On s'en aperçoit d'ici, vous avez raison, parce que le public viendra, oui. Et le quadrige accueillera le public.
Oui, ben, je crois que c'est ce qu'il faudrait.
Alors Michel Tournier, vous êtes, on le sait, écrivain, vous faites partie de la glorieuse compagnie de l'Académie Goncourt. On ne peut pas oublier que vous avez obtenu le prix Goncourt avec Le Roi des Zones. Et c'est un livre qui avait pour paysage la Pologne, cette Pologne que vous allez redécouvrir. Alors il y a eu beaucoup d'œuvres dans votre périmètre littéraire. Il y a Les Météores, Le Vent Paraclet, Le Coq de Bruyère. Il y a la série des Vendredis avec Vendredi ou La Vie Sauvage, entre autres. Et c'est un livre que vous adressiez aux enfants, 2 millions d'exemplaires vendus. Alors on peut se demander pour quelles raisons vous êtes devenu le gourou des enfants. Parce que sûrement vous avez été un mauvais professeur.
Ah, je l'aurais peut-être été, mais j'en ai pas eu l'occasion. Hein. J'ai échoué avec tous mes examens, et pour moi la littérature a été d'abord une façon de gagner ma vie, et ensuite une façon de revenir à l'école. Parce qu'on a chassé le professeur par la porte, et le compteur revient par la fenêtre. Et alors, pourquoi ? Eh bien, je crois que c'est simple. J'écris avec un idéal de clarté, de limpidité, de brièveté, qui fait que, c'est très difficile d'écrire comme ça, je n'écris pas pour les enfants. Mais quand je m'approche de cet idéal, c'est-à-dire quand je suis au meilleur de ma forme, j'écris des choses assez bonnes pour que les enfants les lisent aussi. Et Vendredi ou La Vie Sauvage n'a jamais été écrit pour les enfants. C'est ce qui d'ailleurs me vaut périodiquement des attaques violentes de la presse bien-pensante pour les enfants, qui juge les livres pour les enfants, en disant « c'est pas pour les enfants, c'est vrai ». Mais c'est assez bon pour qu'ils le lisent. C'est tout ce que je demande.
Alors, il y a justement cette critique violente que l'on vous adresse par rapport à des livres comme cela. Vous êtes lu et étudié dans les écoles. Alors, on dit, j'ai noté quelques phrases comme celle-là. L'écrivain officiel de la République et de ses lycées. On vous intéressez, c'est vrai, à la jeunesse. Et on vous reproche de faire le professeur. On vous reproche de faire la leçon, de donner la morale.
Alors, écoutez, on ne peut pas me reprocher à la fois
d'être immoral. Ce sont des envieux qui disent cela ?
Non, c'est un malentendu. Mais vous savez, les attaques, c'est toujours très bon, ça prouve qu'on s'intéresse.
Ça vous excite un tout petit peu ?
Ça m'excite, ça me fait plaisir, et ça réveille. Et je peux répondre, c'est-à-dire que je ne fais pas la morale. Donc on ne peut pas me reprocher de faire la morale, ni de faire le contraire de la morale, parce qu'il ne faut tout de même pas exagérer, me reprocher à la fois d'être gnangnan, puisque je suis dû dans les écoles, et d'être un auteur sulfureux, qui pervertit la jeunesse. Ce sont tout de même deux critiques que j'entends et qui sont contradictoires, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et puis cela vient aussi de ce que vous avez un parcours particulier. Vous pourriez être à votre manière comme Julien Agrac, c'est-à-dire complètement éloigné, mais heureusement pour vous, vous intéressez au monde. Mais c'est vrai que vous vivez dans un presbytère, vous recevez,
oui.
Comme vous étiez déjà un commencement de sainteté.
N'exagérons rien, c'est un presbytère.
Ça se passe comme ça. Hein.
Je ne suis pas le curé du village. Mon village a un curé avec lequel j'ai les meilleures relations.
Je me demande quel curé chez vous, quand même.
C'est-à-dire que j'ai été élevé en partie dans des écoles religieuses, et la religion compte beaucoup pour moi. Enfin, ça fait partie de ma base, de ma... Et quelquefois, je vais dans des écoles religieuses. Je suis reçu par des professeurs qui sont visiblement des religieux, parce que maintenant, avec les costumes civils, on ne sait plus. Et je peux même vous raconter une anecdote. Je réponds à toutes les questions au principe. Les enfants posent des questions d'une brutalité incroyable.
Quelles questions, par exemple ?
Eh bien, justement, ce cas de la question religieuse. J'étais dans une école religieuse, et une petite fille me dit « Croyez-vous en Dieu ?» Dur, hein ? Il fallait répondre. Alors, j'ai fait une réponse qui, je crois, va vous plaire. J'ai dit « Oui ». parce que la musique de Jean-Sébastien Bach m'y oblige. Parce que je l'écoute tous les jours, Jean-Sébastien Bach, notamment la nuit sur France Musique. Et quand on entend Jean-Sébastien Bach, la foi religieuse est tellement inhérente à sa musique qu'on est obligé de le suivre. Donc, aussi longtemps que j'entends Jean-Sébastien Bach, j'ai la foi. Et alors, évidemment, on peut juger que c'est une réponse insuffisante. Mais c'est vrai.
Elle l'a jugée suffisante, la réponse ?
Elle a été surprise, mais j'espère que ça va au moins lui donner l'envie d'écouter Jean-Sébastien Bach.
Alors, vous appartenez, comme je le disais, à l'Académie Goncourt. Vous avez l'obligation de lire des livres. Bon, le prix, c'est bientôt. C'est-à-dire que vous engrangez en ce moment.
Ah oui, mais non, mais on lit toute l'année. Vous savez qu'il y a une date...
Vous lisez vraiment
toute
tous
l'année,
les livres.
Absolument.
Donc vous perdez, par rapport à votre art personnel, vous perdez beaucoup de temps. On ne peut pas à la fois lire et écrire.
Oui, mais on ne peut pas à la fois faire partie de l'Académie Goncourt, prétendre un certain cadre officiel, il faut bien le dire. Hein. L'Académie Goncourt n'est certes pas l'Académie française, mais enfin, c'est quand même une académie. Et puis, je ne rien faire pour ça. Alors je lis les romans qui paraissent aujourd'hui, et il y en a qui m'enchantent.
Est-ce qu'il y a par exemple deux titres qui vous ont complètement épaté et que vous aimeriez d'abord recommander
eh bien alors,
à ceux qui aiment la lecture et d'autre part retenir alors, pour le prix ?
Il y a Geneviève d'Orman.
Mais c'est fait, elle.
Bah oui, mais qu'est-ce que vous avez, tant pis.
Elle vient d'avoir le prix de l'Académie française.
Eh bien c'est un roman merveilleux, je lui ai écrit. C'est un gros roman juteux, savoureux, qui se passe dans l'île Maurice, qui est plein d'odeurs. C'est un régal et c'est vraiment le livre de vacances idéal. Et j'ai écrit à Geneviève d'Orman que je regrettais, d'une certaine façon, qu'elle ait eu le Grand Prix du roman de l'Académie française, parce que moi, je l'aurais défendu au Goncourt. Et si vous voulez, ça m'a amusé d'écrire cette lettre. Et je lui ai dit, parce que j'ai reçu cette lettre-là de Jean Giono, quand j'ai eu en 67 le prix de l'Académie française pour Vendredi, Jean Giono m'a écrit « Ah là là, quel dommage !» Et j'aurais aimé voter pour ce livre au prix Goncourt. Et je lui ai répondu, ben vous voterez pour le prochain. Et malheureusement, il n'a pas pu parce qu'il est mort quelques jours avant. Mais je veux dire que c'est un très beau livre. C'est un très beau livre. Alors vous m'en demandez deux. Moi, je recommanderais, puisqu'on parle de nouvelles, le livre de Christiane Baroche, Et il vantait devant ma porte, qui est un recueil de nouvelles. Vous savez, Christiane Baroche est un des plus grands auteurs de nouvelles d'aujourd'hui. C'est un genre ingrat, on en parlera peut-être.
Avec Daniel Boulanger, quand même.
Daniel Boulanger aussi. Mais Geneviève Baroche, Christiane Baroche, ça vient tout juste de paraître. Il vantait devant ma porte. C'est un recueil très fort. La nouvelle, on en parlera peut-être. C'est un genre qui est volontiers déprimant, dépressif, gris. Et avec Christiane Baroche, c'est dynamique. Ça prend de la couleur, ça prend de la saveur, n'est-ce pas ? On sent qu'elle aime ça, qu'elle aime vivre. Et ben voilà, alors vous m'en demandez deux.
On parlait des prix. Les prix sont des encouragements véritables. Vous avez eu le prix de l'Académie française,
oui.
Vous avez eu le prix Goncourt.
Oui.
Bon, le prix Goncourt, c'est une aventure pour un écrivain, parce que d'abord, ça assure complètement la liberté.
Ah oui, ça je dois dire qu'au point de vue matériel, c'est formidable. C'est formidable. Pensez qu'aujourd'hui, un prix Goncourt, ça représente 4 millions de francs de droits d'auteur. C'est-à-dire que ça bouleverse une vie. Mmh. Surtout que l'auteur est un gagne petit.
C'est 400 pas un... millions de santé.
Et oui, c'est pas un directeur d'entreprise, un écrivain, hein, c'est un petit artisan en chambre. Alors boum, il lui tombe sur la table. 4 millions, ça bouleverse sa vie.
Ah, ça bouleverse tellement que certains l'ont eu bouleversé.
Oui, il y en a qui perdent un peu la boule. Oui. Il faut pas qu'il soit trop jeune. Il faut pas qu'il soit trop jeune. Vous voyez, Jean-Louis Borry, qu'il a eu à 25 ans, a toujours dit que ça l'avait perturbé. Et c'est vrai, commencer sa carrière à 25 ans avec un prix Goncourt, c'est dur.
Jean Carrière, la
Jean Carrière, oui. Oui. Ben ça, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça que ça se passe dans une vie. Vous savez, vous pouvez avoir un avocat qui, dès sa jeunesse, a eu l'affaire la plus formidable qu'il aura jamais. Regardez les avocats de Pétain, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'ils pouvaient espérer ensuite dans leur carrière après avoir défendu Pétain au lendemain de la guerre ? C'est ridicule. Ils vont quoi faire des histoires d'avocats, de divorces, des procès. Quand on est passé par là. Alors là, c'est ça, c'est le danger d'une consécration trop brutale et trop... Mais moi, j'ai pas eu ce problème, puisque j'avais déjà publié autre chose, puis j'ai publié tard, j'ai commencé très tard. Je suis un personnage retardataire.
Alors, Michel Tournier, vous êtes à l'Académie Goncourt, mais vous n'êtes pas, et pour cause, à l'Académie française.
Ah non, c'est...
On ne peut pas. Hein. Vous avez le goût des honneurs, vous avez le...
Pas du tout.
si pas vous aimez quand même être l'académie, reconnu.
L'Académie Goncourt, ce sont des copains. Vous savez, le métier d'écrivain est un métier très solitaire. Le matin, il faut aller à sa table tout seul. On n'a personne pour vous aider, personne pour vous féliciter si ça marche, personne pour vous consoler si ça ne marche pas. Alors, on aime se retrouver avec des copains. Et l'Académie Goncourt, c'est 10 écrivains, prosateurs, qui se réunissent pour déjeuner tout près d'ici, chez Drouan, tous les mois, et pour parler de littérature.
Les académiciens, ce ne sont pas 40 copains.
Ben, j'ai peur que non, ouais. D'après ce que j'entends dire. En plus, n'est-ce pas, d'abord 40, c'est trop.
Ouais.
Alors, il doit former, j'imagine, des petits groupes. Hein. Il doit y avoir des petits noyaux de copains. Mais l'Académie française dans son ensemble... Et puis, vous savez, alors il y a à l'Académie... La différence est amusante. Il y a à l'Académie Goncourt une règle. Quand on fait une élection, si un écrivain envisagé a la majorité, mais qu'il y en a un qui pose son veto, il n'est pas élu. Il y a un veto, un droit de veto. Parce que 10 autour d'une table, il ne faut pas qu'il y ait une cassure, n'est-ce pas ? Tandis que, alors, je dis un jour à Dormesson, mais vous devriez faire ça à l'Académie française, qu'il y ait un droit de veto. Il dit, mais mon pauvre ami, mais il n'y aurait plus jamais une élection à l'Académie française, si c'était le cas. Vous voyez, parce que c'est trop vaste. 40, effectivement, on est un peu noyé, j'imagine. Il doit y avoir des petits noyaux qui se forment à droite et à gauche, j'en sais rien, moi.
Alors, à différentes reprises, vous avez parlé de La Nouvelle, vous avez parlé de Christiane Baroche, on a parlé de Daniel Boulanger, mais c'était une bonne introduction au nouveau livre qui paraît chez Gallimard et qui a pour titre « Le médianoche amoureux ». Et c'est vrai qu'il s'agit d'une suite de contes, d'une suite de nouvelles qui ne sont pas particulièrement destinées aux enfants de 10 à 14 ans, mais qui intéressent tout le monde. Alors, d'abord, le titre « Le médianoche amoureux ». Le médianoche, c'est un titre qui va s'installer, c'est vrai, parce qu'il est surprenant, il n'est pas dans le dictionnaire.
Ah, ça dépend, si, il y a dans certains dictionnaires, il y est. C'est un terme d'origine espagnole, medianoche, c'est le milieu de la nuit, et c'est un banquet que l'on fait au milieu de la nuit, un peu le souper, vous voyez, après le théâtre. Mais souper, je trouve que la soupe, enfin le souper, c'est la soupe. Et alors, medianoche, c'est un mot curieux, qui sonne bien. Vous savez, les Français aiment bien les mots en noche. L'argot, il y a la pastoche, il y a le cinoche. Qui rappelle aussi la brioche. Enfin, vous voyez, c'est un mot juteux, un mot savoureux. Et puis, amoureux qui arrive. Alors là, je suis très net. Il faut toujours, dans un titre, la lettre R.
La lettre R ?
Oui. Un titre sans lettre R, il manque quelque chose. Ça fait
pour
fade.
La musique ? Pour la musique ?
Oui, pour accrocher l'oreille. Alors, le médianoche sans amoureux, il manquait la lettre R. J'ai fait un livre avec sans lettre R, ça s'appelle Le Vagabond Immobile, mais c'est le seul. Vous pouvez regarder tous mes titres, ils ont la lettre R.
Les météores.
Ah oui, le roi des zones, la goutte d'or.
Oui, c'est vrai.
Oui. Ouais. C'est indispensable pour accrocher un petit peu, et ne pas donner une impression fade, vous voyez. Et j'aime bien ce mot de médianoche qui ne correspond à aucune nouvelle particulière, mais enfin, on peut...
Vous pensez qu'il entrera dans la conversation que l'on dira pour celui qui,
on va faire un médianoche.
Donne un rendez-vous à minuit, ou je ne sais pas...
Faisons un petit médianoche.
Il
est dans Saint-Simon. Hein. Saint-Simon racontait, dans ses mémoires, que les aristocrates, enfin les gentilshommes, se réunissaient après le départ du roi. Le roi étant parti, les devoirs de la cour étant terminés, ils se réunissaient pour faire un petit médianoche entre eux.
Alors, est-il difficile de s'intégrer dans un cycle de contes et de nouvelles ? Moi, j'ai toujours pensé que la nouvelle et le conte étaient le genre littéraire vraiment le plus exigeant.
Ah oui.
Il est presque plus facile d'écrire en roman qu'une nouvelle.
Sûrement. Dans ce recueil de 20 histoires, il y a la matière de plusieurs romans. C'est une déperdition d'énergie considérable. Et à mon avis... le conte et la nouvelle sont maltraités. Ils ne sont pas traités avec le respect qui leur revient. Je vais vous raconter une petite histoire. Et j'étais, il y a 3 ans, à Rio de Janeiro. Et j'avais devant moi des étudiants brésiliens qui me posaient des questions, qui étaient des étudiants de français. Et il y en a un qui me pose une question épouvantable. Il me dit, si nous ne devions lire qu'un seul livre de littérature française, qu'est-ce que vous nous conseilleriez ? Alors j'ai d'abord titubé sous le choc. J'ai eu 100 titres qui sont présentés à mon esprit. Et j'ai fini par dire les 3 contes de Flaubert. C'est un peu truqué comme réponse parce qu'il y a 3 contes. Mais personne ne peut me reprocher d'avoir dit cela. Bon, je pouvais dire 1000 autres choses. Et il n'y a pas de doute, en effet, c'est un des plus hauts sommets de la littérature française. Et ce sont 3 courtes histoires.
Et je peux comprendre une réponse comme celle-là, parce que je me souviens de ce que me disait Georges-Louis Borges, qui restera quand même l'un des les grands écrivains de ce siècle. Je lui demandais quel est le livre que vous aimeriez voir aller très haut dans les avenirs. Il me répondait, pas de livre, simplement une de mes fictions, voilà. Une seule. Oui. Et j'aimerais bien qu'on oublie mon nom pour ne retenir que ma fiction.
Voilà.
C'est comme alors, pour le ça... conte des mille et une nuits. Voilà. Oui, mais ça, c'est alors, la vanité là, suprême.
Hein. Vous avez, oui, l'ambition monstrueuse
ah oui.
du conteur et du novelliste qui se cache sous un manteau d'humilité absolument étonnant. Et car le novelliste, l'auteur d'une nouvelle, vous dit « Oh, moi, j'ai entendu, j'ai observé, j'ai vu. » Si vous voulez, un petit peu comme le photographe qui fait du sur-le-vif, Cartier-Bresson ou Édouard Bouba, qui vous disent « Oh, moi, je me promène avec mon appareil de photo, puis je vois quelque chose, je photographie, je n'interviens pas, tout le monde peut faire ça. » Puis ils font des chefs-d'œuvre. Eh bien, le novelliste lui dit ça. « Moi, j'ai entendu, j'ai observé. » C'est comme dans le journal, une nouvelle. On lit des nouvelles dans le journal, des faits divers. Alors, le conteur, lui, il vous dit « Il était une fois ». Alors lui, il se réfère au folklore, au passé, à une tradition qu'on lui a rapportée. Alors là aussi, il est modeste. Mais cette modestie lui permet de dire ce que je n'hésite pas à dire. Mes contes sont les plus beaux du monde. Il n'y a jamais eu un conte aussi beau que celui-là. Et je vais vous le dire. C'est pas lui l'auteur, tu vois. C'était dans l'air.
Oui, ça passe quand même par l'écriture.
Mais naturellement. Oui. Et puis ça peut être aussi quand même l'auteur. Mais je veux dire qu'il y a dans l'attitude du conteur une humilité d'apparence qui permet tous les orgueils.
Michel Tournet, je rappelle que nous sommes aux Tuileries. On entend peut-être des voix d'enfants.
Oui,
c'est un
bien.
Peu votre public.
Absolument.
Bon, c'est vrai que vous avez avec eux des relations, et j'ai pu le vérifier moi-même, puisqu'une fois, je vous ai entraîné vraiment à rencontrer oui. beaucoup d'élèves de toutes les classes oui. dans un lycée. Mais lorsque vous êtes avec eux, vous considérez qu'ils sont parfaitement adultes.
Ah,
et dans le même temps, vous vous dites, moi, je n'ai pas d'enfant.
Si, j'ai élevé un enfant.
Vous avez élevé un enfant.
Mais
ça n'est pas votre enfant.
Non. Mais le rapport des parents biologiques avec l'enfant est extrêmement curieux, bizarre, difficile et problématique. C'est presque un avantage, quand on a un enfant, de ne pas en être le père ni la mère biologique. Et quant aux classes que je vais voir, moi je vais voir ça dans des milieux scolaires. Je suis invité par le professeur, je reçois les questions des enfants. J'ai pour principe de toujours répondre, ce qui est souvent très difficile. Je vous en ai donné un exemple tout à l'heure. Et puis j'ai autre chose. J'essaie mes histoires sur eux. J'ai des contes que je n'ai pas encore écrits et je leur fais la primeur, et eux réagissent, et me posent des questions, et ils me donnent des interprétations. Si vous voulez, je vous en donnerai un exemple. C'est passionnant. Et il y a beaucoup de contes du média Noche Amoureux qui ont été rodés dans des écoles.
Alors, Michel Tournet, vous avez donné un sens à cette suite de contes et de nouvelles, c'est-à-dire que la première nouvelle indique presque...
Annonce
les autres, ce qui n'est pas le cas dans les recueils de nouvelles. D'autre part, c'est dans la première nouvelle que vous avez pris le titre. Alors, la première nouvelle, ce sont les amants taciturnes. Bon, c'est le sujet. Le sujet, c'est la communication des couples oui. un peu anciens. Et c'est la grande question voilà. qui est posée et qui peut intéresser vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Que se dire après 20 ans de vie voilà. commune ? Faut-il se séparer ou faut-il continuer à cultiver les habitudes ?
Alors, moi, j'ai fait ma petite enquête parce que j'ai jamais vécu 20 ans avec qui que ce soit.
Oui.
J'ai interrogé des gens mariés et je leur ai dit « Qu'est-ce que vous vous racontez ? Est-ce que vous avez des problèmes ?» Alors j'ai eu des réponses souvent effrayantes. J'ai un monsieur qui m'a dit « Je ne sais pas ce qu'elle me fait, elle a numéroté mes histoires. » Alors quand je commence à lui dire « Ah, un jour je me trouvais avec un tel dans tel endroit », elle me dit « 23 ». C'est l'histoire numéro 23. Alors j'ai plus qu'à me taire puisque c'est mon histoire numéro 23. Et j'en commence une autre, elle me dit « 17 ». Alors pof, c'est fini. Et puis alors, il y a une dame qui m'a dit une chose un peu effrayante. Elle m'a dit, le dimanche, nous allons traditionnellement déjeuner au restaurant. Et j'ai tellement honte de notre silence vis-à-vis des autres clients du restaurant que je fais remuer ma bouche en silence, comme si je parlais à mon mari pour avoir l'air d'avoir quelque chose à lui dire.
Oui, c'est particulièrement pessimiste. Tous les couples qui ont 20 ans ou 30 ans de vie commune,
oui.
même s'ils ont des problèmes d'habitude, quand même, ont une certaine relation humaine. Enfin.
Écoutez, et puis alors, vous remarquerez quand même une chose. C'est quand on parle de la façon dont vivent les couples, on se situe toujours au niveau du langage. On dit ils ne s'entendent plus, n'est-ce pas ? Ou bien ils ont eu des mots. Ou bien ils se trompent. Elle trompe son mari, il trompe sa femme. C'est-à-dire que tout se situe apparemment au niveau des mots et du langage. Eh bien, je trouve qu'en effet, la vie des couples doit dépendre du langage, et donc de la littérature. C'est pour ça que je suis quand même optimiste, car dans mon histoire...
Oui, c'est le remède. Voilà. La littérature est le remède de la mésentente des couples.
Voilà. Et alors, il y a au départ Scheherazade. Rappelons en deux mots l'histoire de Scheherazade, qui est la conteuse, n'est-ce pas, par excellence. Alors, le sultan avait été trompé par sa femme. Il décide donc de se marier tous les soirs. Et le lendemain matin, de faire couper le cou à sa femme pour être sûr qu'elle ne le trompera pas. Bon, alors il y en a comme ça un certain nombre qui passent à la casserole. Et Scheherazade est volontaire. Hein. C'est un petit peu comme Thésée qui va rencontrer le Minotaure. Mais elle n'a pas de poignard. Elle a sa langue. Et toute la nuit, elle raconte des histoires. Et quand le jour se lève, pof, elle s'arrête au beau milieu d'une histoire. Et le sultan est furieux. Il dit alors la suite. Demain. Alors, il sursoit à son exécution, et la chose se reproduit tous les jours pendant 1001 nuits. Alors, c'est un symbole formidable, vous comprenez ? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en face d'un tyran sanglant, l'écrivain, le conteur, est là pour le désarmer. Hein ? Et on pourrait dire, peut-être, que s'il y a eu Hitler, Staline, Pol Pot et autres, c'est de la faute des écrivains allemands, russes, ou cambodgiens qui n'ont pas su être la Scheherazade qui allait désarmer.
Oui, par rapport à votre nouvelle, Michel Tourné, on pourrait dire aussi qu'une femme ou un homme, après 20 ans de vie commune ou 10 ans de vie commune, a la nécessité de poursuivre, de continuer cette loi merveilleuse qui est celle de la séduction. C'est-à-dire l'un doit séduire l'autre.
Avec
il ne faut
histoires.
Pas s'en tenir aux habitudes. Oui. Avec des histoires ou avec autre
Et
chose.
Et alors, par la même occasion, je glisse une théorie de Don Juan que je vous soumets. On a dit que Don Juan, il y a une théorie selon laquelle Don Juan cherchait la femme vierge, la virginité. C'est trop. Il cherche, selon moi, l'oreille vierge. Car Don Juan est un hableur, c'est un espagnol. Un hableur, c'est un mot espagnol.
Un inquiet, surtout.
Il raconte des histoires. Il veut qu'on le croie, n'est-ce pas ? Or, quand il rencontre une jeune femme nouvelle, elle a les oreilles vierges. Et elle le croit. Et ça marche. Et le jour où il surprend dans son regard l'ombre d'un doute sur ce qu'il est en train de dire, c'est fini. La glace tombe sur lui et il faut qu'il cherche une autre oreille vierge pour ses hableries, voyez.
Mais dans une nouvelle comme celle que vous pouvez écrire, faut-il donner une réponse ? Par exemple, vous posez les questions. Comment vivre après 20 ans de vie commune ? Faut-il se séparer ? Vous ne donnez pas une réponse. D'autre part, vous n'avez pas l'expérience.
Ah non, mais un écrivain, un romancier ne doit pas avoir des expériences.
Vous avez fait vos enquêtes, vous l'avez dit.
Un romancier parle de ce qu'il ne connaît pas lui-même.
Ouais.
Sinon, ce n'est pas un romancier, c'est un mémorialiste, un auteur de journal, un auteur de confession. Alors, est-ce que la littérature peut sauver les couples en perdition ? Moi, je crois que oui. Je crois que oui. Je connais dans mes milieux littéraires des couples littéraires. Et ils marchent vraiment bien, car ils lisent chacun. Par exemple, ils sont dans leur lit, ils ont chacun un bouquin, et ils passent leur temps à s'interrompre, à se pousser du coude. « Oh, dis donc, regarde ce que je viens de lire, etc. » C'est épatant, vous comprenez ?
Oui, mais la télévision peut faire office de cela aussi. Imaginons une émission très, très mauvaise. Un homme et une femme ne se sont pas parlé depuis des mois, et puis ils disent tout d'un coup, dans le même temps, « que c'est mauvais », et la conversation reprend.
Croyez-vous qu'elle va reprendre sur une émission mauvaise ?
Ça ne peut pas reprendre sur l'émission.
Voilà.
Ça ne peut pas reprendre.
Eh bien, voyez que ça ne marche pas.
Non, parce que là, il sera obligé d'avoir une véritable conversation.
Et la télévision, ça vous cloue le bec. C'est ça que je reproche à la télévision. C'est qu'elle crée une passivité chez les gens, et notamment chez les enfants, qui sont fascinés par le petit écran et qui ne se posent pas de questions. Et ils ne comprennent pas les trois quarts de ce qu'ils voient et de ce qu'ils entendent, mais ils ne cherchent pas à comprendre. C'est ça qui est grave.
Mais alors vous êtes fasciné aussi par la télévision, vous ?
Pas tellement, non. Moi, je suis un homme de radio. Je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, parce que je sais que vous êtes aussi un homme de télévision. Mais la radio compte beaucoup plus pour moi. Toute une partie de la nuit, j'écoute la radio, dans l'obscurité. J'écoute France Culture. J'ai fait 20 ans de radio, moi, avant...
Tout à l'heure, vous disiez France Musique, les deux,
alors. Oui, les deux, on passe de l'un à l'autre, c'est un petit millimètre. Et c'est extraordinaire, vous savez ce qui se passe la nuit quand on écoute France Culture, l'hiver, dans une maison isolée. et qu'on voit surgir un ami, quelqu'un qui est mort depuis 10 ou 20 ans, et qui brusquement, par la magie de la voix, est là. Par exemple, Jean-Louis Borry, que j'aimais beaucoup. Eh bien, brusquement, il a passé 2 heures avec moi parce que j'entendais sa voix. La voix, vous savez, a une puissance d'évocation incroyable, beaucoup plus que l'image. Moi, j'hésiterais à enregistrer un ami dont je sais qu'il va mourir. Parce que ensuite, écoutez ça, c'est affreux. Alors qu'une photo, c'est rien, n'est-ce pas? Et je pense que le remède à l'excès de la télévision, c'est la radio. Et notamment, les histoires qu'on peut raconter à la radio. Les contes et les livres qui sont enregistrés sur cassette. Ça, c'est excellent.
Alors, revenons à votre recueil de nouvelles, à ce dernier livre, Michel Tournier. Il y a une deuxième nouvelle qui a pour titre « Les mousserons de la Toussaint ». Alors, « Les mousserons de la Toussaint », c'est la photographie d'un village où le narrateur revient 30 ans après y avoir passé son enfance.
Oui.
Alors là, il y a toute une histoire parce que c'est tout à fait particulier. On a l'impression que c'est vous, cette fois-ci, et que cette maison dont on parle, c'est celle que vous habitez en ce moment, c'est ce presbytère. Alors, avez-vous fait appel à vos souvenirs pour écrire cette nouvelle?
Alors, je vous dirais d'abord que ce sont des fictions. Donc, je ne suis dans aucune de ces histoires. D'ailleurs, ce serait incroyable que j'aie eu toutes ces aventures que je raconte, puisqu'il y en a 20. Quant au mousseron de la Toussaint, c'est une photographie. C'est la première de la série, et c'est ce qu'il y a de plus réaliste. Parce qu'on démarre sur le réalisme le plus absolu, et peu à peu, on va vers les contes.
Oui.
Ça s'idéalise peu à peu. Alors ça, c'est vraiment la photographie d'un village retrouvé 30 ans plus tard, avec les destins. Alors c'est une collection de petits destins, parce que mon héros retourne en Bourgogne, dans ce village où il était enfant, pendant la guerre, et alors il rencontre un copain qui est braconnier, n'est-ce pas, qui est un marginal intégral, et il lui dit « Alors un tel, une telle, etc. » Et l'autre lui donne des nouvelles. Et c'est presque toujours affreux. C'est parce qu'il s'est passé presque toujours triste. Ça, c'est la nouvelle. La nouvelle est un genre pessimiste. C'est un genre dépressif.
On ne peut pas réussir dans la gaieté?
On ne peut pas, moi je ne crois pas. Enfin, je vous parlais tout à l'heure de Christiane Baroche qui, elle, fait des nouvelles qui sont dynamiques. Mais en général, si vous lisez Maupassant, c'est affreux. Les histoires de Maupassant sont d'une noirceur, d'encre. Et Tchekhov, alors c'est pas noir, c'est gris. Et Sartre, le mur, c'est aussi très noir. Tandis que les contes, n'est-ce pas? Alors les contes, ça décolle et ça devient merveilleux, le conte. Et ça excite l'esprit. La nouvelle n'a pas de contenu idéologique. C'est un constat. Voilà, le monde est comme ça. Les mousserons de la Toussaint, vous m'en parlez, c'est la photographie.
Alors il vient, il veut racheter le presbytère,
oui.
Mais quand même il y a un petit problème, c'est qu'il y a le maire.
Oui.
Et il y a des habitudes.
Oui.
Et on ne se défait pas facilement dans un village d'une maison, même si elle est libre. Elle appartient d'abord au village avant qu'elle appartienne à celui qui veut l'acheter.
Il commet une erreur monstrueuse, n'est-ce pas? Il va voir le maire et lui dit « Je voudrais acheter le presbytère ». Alors le maire lui dit « Le presbytère, il n'est pas habitable dans l'état qu'il est. Il faudrait refaire au moins la toiture ». Et mon héros lui dit « Mais je suis prêt à dépenser 2 à 3 millions pour refaire ce presbytère ». Alors le maire lui dit « Ah, 2 à 3 millions, vous êtes fou. Vous imaginez que vous allez vous en tirer avec 2 à 3 millions ?» Et l'autre, comme une erreur monstrueuse, il dit « Mais monsieur le maire, je ne parle pas de centimes, je parle de nouveaux francs. » Alors le maire pousse un hurlement « Comment 2 à 300 millions, mais vous voulez faire exploser le village? Mais vous allez tout démolir, c'est une bombe atomique, n'est-ce pas ?» Il le met à la porte. C'est le problème de l'homme riche qui débarque dans un village, vous voyez, qui est un village très modeste et qui a de l'argent plein les poches et qui fait peur. Il faut aussi envisager ça.
Oui,
l'homme qui a fait fortune.
Oui, Michel Tournier, vous habitez quand même un presbytère.
Oui, mais j'ai pas mis 2 à 3 millions dedans.
Non, mais vous vous mettez en scène d'une certaine manière.
Non, c'est pas moi. Ça.
Comme
pas
si
moi
vous aviez
tout.
Quelque chose à vous reprocher.
Non, non, non. Je n'ai rien à me reprocher du point de vue de mon presbytère qui n'a pas bougé. Je crois que je suis un client, un habitant discret. Vous savez qu'à quelques mètres habitait Ingrid Bergman. C'était quand même pas mal comme voisinage. Et puis, il y a toujours son mari, Lars Schmitt, qui est un grand homme de théâtre, qui est toujours là. Alors là, c'est quand même des gens beaucoup plus voyants que
Mais
moi.
Mais dans toutes ces nouvelles, il y a quand même un fond commun. Il y a souvent les relations adultes-enfants.
Ah oui,
cette relation,
c'est un grand sujet.
Oui, qui vous accompagne, qui peut-être même à certains moments vous dérange. Adultes-enfants.
Oui, parce que c'est un problème extrêmement actuel. Alors par exemple, vous avez une nouvelle qui s'appelle Lucie ou la femme sans ombre, et qui pose le problème qui m'intéresse beaucoup, des relations entre l'enseignant et l'élève. Parce que vous avez un enfant qui vit dans sa famille. Il a des relations purement affectives avec son père, sa mère, ses frères et sœurs. Il n'y a pas de justice. C'est l'inégalité. Bon, il va à l'école, et là, il tombe dans un milieu qui est social et non plus biologique, où règne la justice. Les enfants sont égaux. Et il ne doit pas y avoir d'affectivité, notamment entre le professeur et les élèves. Pas de chouchou, n'est-ce pas ? Rappelez-vous l'horrible affaire Ruffier, Gabriel Ruffier, il y a 20 ans. Alors rappelons-la en deux mots. Une jeune enseignante de 25 ans a une liaison avec un de ses élèves qui en avait 19. Aujourd'hui, ça paraît très normal. Non seulement elle est suspendue, mais elle est jetée en prison et elle se suicide dans sa prison. Bon, mais ça pose le problème, quelle doit être la relation personnelle d'un enseignant avec ses élèves ? Alors, moi, je me pose la question, parce que j'ai été un très mauvais élève. Est-ce que ça n'était pas parce que je n'avais pas la relation personnelle qu'il aurait fallu avec mes professeurs ? J'ai tout appris dans des livres. Est-ce que ça n'est pas parce que, pour moi, le livre, c'est le professeur idéal ? Et alors, est-ce que le professeur idéal, ça n'est pas l'ordinateur ?
C'est ce que vous dites, l'enseignant idéal n'est-il pas l'ordinateur ?
L'ordinateur !
Là ? Non, là, vous plaisantez un tout petit peu.
Mais non, écoutez, vous prenez un enfant et qui a, comme tous les enfants, ses qualités, ses défauts, ses connaissances et ses ignorances. L'ordinateur absorbe tout. Il devient le maître idéal, car il va tenir compte de tout ce qu'il y a chez cet enfant, et avec une patience illimitée. Il n'a pas d'affectivité, l'ordinateur. Vous comprenez ? Dans un certain sens, on peut se demander si on ne va pas là. Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même un être de chair et de sang devant l'enfant qui apprend quelque chose ? C'est un sujet passionnant. C'est un sujet tout à fait passionnant que je soulève.
Mais vous reconnaissez le talent des enseignants, vous qui ne l'avez pas été, et vous qui essayez de le devenir ?
Bien sûr, et la patience, et le désespoir, quelquefois, parce que c'est un métier désespérant. Vous savez, ils sont souvent désespérés, les enseignants. C'est certainement, de tous les métiers, celui qui provoque le plus de déprime, le métier d'enseignant. Et à mon avis, ils ont tort, presque toujours, parce que vous avez un cancre qui est au fond de la classe, qui est écrasé sur son bureau et qui dort. Eh bien, il ne dort pas tant que ça. Et au bout d'un certain nombre d'heures de classe, qu'il le veuille ou non, il a assimilé dans sa tête. Il y a des mots qu'il connaît, qu'il reconnaîtra plus tard, vous comprenez ? Et quand il s'éveillera, parce qu'il y a un grand problème dont on ne tient pas compte dans les écoles et on ne peut pas, c'est la précocité ou la non-précocité des enfants. Moi, mon problème, c'est que j'étais l'anti-précoce par excellence. J'ai été en classe avec Roger Nimier. Roger Nimier avait un an de moins que moi. Il était partout avec des dispenses. Il savait tout. Il avait, à 16 ans, il avait tout lu, tout compris, tout assimilé.
Belle biographie vient de sortir de Roger Nimier.
Oui. Il a publié son premier livre à 18 ans. Il a publié son dernier livre à 28 ans. Et il est mort à 36 ans. Alors moi, j'étais écrasé devant ce monstre. Car moi, j'en étais encore à Tintin et Milou. Vous comprenez ? À 17 ans, c'était Tintin et Milou, moi. Et j'ai compris beaucoup plus tard. Il m'a fallu 10 ans pour arriver au niveau de Nimier quand il en avait 16. Eh bien, ce problème du cancre est très souvent un problème de précocité ou de non-précocité. Mais l'enfant mûrit en entendant le cours. Il a l'air complètement abruti. Mais ce n'est pas vrai. C'est un fruit qui mûrit et il retient quelque chose de ce ronron verbal. Il reste quelque chose.
Michel Tournet, j'ai bien retenu que vous étiez un cancre à l'école.
Très mauvais.
J'ai bien retenu aussi, et je le sais, que vous avez commencé l'écrire très tard. Mais peut-être à cause de votre orgueil, parce que vous ne vouliez pas écrire en vain. Vous vouliez frapper fort et juste. Vous vouliez que votre premier livre fût un succès. Alors que lorsqu'on écrit, on se lance dans une aventure.
Oui.
Et on n'invente pas son avenir. Vous, tout était préparé. C'est pour ça que vous avez perdu du temps. À la vérité, vous l'avez gagné.
Non,
vous saviez très bien ce que vous faisiez.
Ça n'était pas programmé. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais il y a aussi autre chose. Je faisais des traductions. Je faisais du petit boulot dans des maisons d'édition. Et je voyais ce qui se passait. Et je voyais paraître des livres qui disparaissaient 6 mois plus tard à tout jamais. Et je me disais, moi pas. Moi, si je fais un livre, un jour, il faut qu'il tienne le coup. Et c'est pour ça que j'ai attendu d'avoir 40 ans, parce qu'il est évident que si à 20 ans vous publiez un petit livre plein de promesses, il risque de disparaître. Et j'ai beaucoup d'écrivains autour de moi de mon âge qui ont honte des ouvrages qu'ils ont publiés quand ils étaient tout débutants et qui cherchent à les faire disparaître.
Oui, chacun de vos livres a un sens.
Oui, parce que alors là aussi, c'est une de mes manies, il me faut des grands sujets. Et alors là, je suis vraiment l'élève de Zola, n'est-ce pas ? Zola, alors, il ne racontait pas des petites histoires.
Alors on rappelle un peu, le roi des zones.
Alors, le roi des zones, c'est la guerre de 39-45, ce n'est pas une petite histoire.
Les météores.
Les météores, c'est le couple.
Le couple.
Le couple des jumeaux, la gémellité et la non-gémellité. Gaspard Melchior et Balthazar, c'est la religion chrétienne.
Ah, je les avais oubliés.
Alors là, vous vous rendez compte, ça n'est pas non plus une
les petite
affaire.
Mages.
Les rois mages. Vendredi, c'est la confrontation.
C'est un emprunt quand même, Rubinson.
Ah ben tous, moi j'emprunte à tout le monde. Hein. Les rois mages, ils sortent de...
Oui, c'est l'histoire.
Ils sortent de des évangiles. Ils sortent de saint Matthieu, les rois mages. Vendredi... Alors, c'est ça qu'il y a de merveilux, voyez-vous. Le cher Daniel Defoe, 1719, hein, 1719, ça fait plus de 250 ans, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne se rendait pas compte de l'histoire qu'il racontait. C'est ça qu'il y a d'admirable. Et nous lisons ça, et nous reconnaissons. Robinson Crusoe. Et quand vendredi arrive, c'est la confrontation nord-sud. C'est l'homme du tiers-monde qui arrive. Basané, qui vient d'Afrique, qui vient d'Amérique latine, qui vient des Indes.
Mais il l'avait compris, peut-être, lui.
Ah non. Ah, ça, je vous jure que non. Mais je lisais-le, il n'avait rien compris.
Je l'ai lu.
Eh bien, il n'a rien compris. Daniel Defoe n'a pas compris ça du tout. Et ce qui est plus curieux...
En tout cas, il est fort parce qu'il a inventé les personnages
voilà.
Que tout le monde invente après.
Voilà. Mais il ne le savait pas. C'est ça, la force du mythe. L'auteur d'un mythe ne sait pas qu'il crée un mythe. Et alors, j'ai eu très peur parce que mon vendredi a failli m'être chippé par un certain Jean-Jacques Rousseau. Alors... Jean-Jacques Rousseau, dans les Mille, dit... Alors, Jean-Jacques Rousseau a inventé, lui, le bon sauvage. Alors, vous voyez, vendredi, le bon sauvage, c'était foutu. Pas du tout. Dans les Mille, Jean-Jacques Rousseau dit « Il n'y aura qu'un seul livre dans la bibliothèque des Mille, ce sera le Robinson Crusoe de Daniel Defoe. » Alors, on est foutu. Ça y est, vendredi, non. Et il ajoute « Mais je couperai le livre avant l'arrivée de vendredi. » Parce que...
Il est pour Michel Tournier.
Voilà. Il dit pas ça, mais il dit parce que c'est Robinson le bon sauvage, c'est-à-dire l'homme qu'on a arraché à la société et qui retrouve sa pureté naturelle dans une île déserte. Mais quand vendredi arrive, la société est reconstituée et se reconstitue l'exécrable relation du maître et de l'esclave. Et c'est ça qu'il ne veut pas. Il n'a pas compris, le cher Jean-Jacques, que vendredi pouvait être porteur d'un message et d'une civilisation à lui, qui est la bonne civilisation, le bon sauvage. Pour Jean-Jacques, le bon sauvage, c'était Robinson Crusoe.
Et les gens ne s'y trompent pas, et surtout les enfants, parce qu'il y a vendredi, il y a Vendredi et la vie sauvage,
oui.
Je le disais tout à l'heure, 2 millions d'exemplaires, c'est un livre qui se vend encore à 200 000 exemplaires chaque année.
Oui.
C'est bien la preuve, parce qu'il n'y a pas, à mon avis, de réussite gratuite. Alors je reviens à l'une... de vos nouvelles, une autre nouvelle, écrire debout. Et là, c'est encore une manière de vous exprimer, par exemple, sur la fonction de l'écrivain, sur le désordre qu'il faut dans nos vies pour assurer une continuité, disons, humaine. Car
oui.
S'il y a trop d'ordre, c'est vraiment la fin. C'est la fin d'un monde.
C'est la fin d'un monde, et on le voit autour de nous, n'est-ce pas ? Il y a des sociétés où il y a trop d'ordre, où il n'y a pas le désordre nécessaire. Regardez,
ça va mieux en Chine, en ce
moment. La Chine est en train de découvrir son désordre.
Il ne faudrait pas que ça dure.
Et l'URSS aussi.
Oui.
N'est-ce pas ? C'est très important qu'il y ait, dans une société humaine, des fonctions, des rappels au désordre. Et ça, c'est le rôle de l'écrivain. Il faut le tolérer, l'écrivain, parce que sinon, la société en question devient une société animale. C'est une ruche. C'est une termitière. C'est une fourmilière. Ça n'est pas humain. Et l'écrivain est là pour excusez-moi l'expression, foutre le bordel. Voilà. Et c'est sa fonction. C'est pour ça qu'il ne doit pas être un écrivain officiel.
Mais c'est sa fonction avec sa plume.
Avec sa plume.
En passant par l'écriture.
Oui, parce
il
que
ne s'engage pas.
En mettant des bombes.
Non,
dans
non,
des...
mais je veux dire, il pourrait s'engager dans la vie politique.
Alors c'est une autre chose, ça. Alors. Seulement si.
Certains grands écrivains se sont engagés.
Oui. Attention. Par exemple, Zola, pour revenir à mon cher Zola.
Ou Jean-Paul Sartre, pour revenir
oui,
à des temps plus rapprochés.
Ils n'ont pas assumé de responsabilité politique.
Tout à fait.
Ils ont fait de l'opposition violente. ils ont crié au secours parce qu'on étranglait la justice. Zola avec Dreyfus et Sartre avec la guerre d'Algérie. Mais ils n'ont pas assumé de responsabilité politique. Parce que ça, alors, je ne sais pas ce qui se serait passé. On n'a jamais vu Benjamin Constant essayer, ça a été assez ridicule. On n'a jamais vu un écrivain devenir homme politique. Je ne crois pas. On a vu des hommes politiques vouloir être écrivains. De Gaulle se voulait un nouveau Chateaubriand. François Mitterrand écrit des livres qui sont tout à fait remarquables. Mais c'est tout de même, ce sont des livres d'hommes politiques. Ce ne sont pas des livres d'écrivains.
En tout cas, Michel Tournier, un écrivain a pour mission d'inventer le désordre.
Absolument. Et de faire respecter le minimum de désordre qu'il faut dans une société.
Alors, il y a une autre nouvelle, l'auto-fantôme. Et là, c'est la première apparition du miroir.
Du miroir.
Et le miroir, bon, c'est Narcisse, c'est tout ce que l'on veut, quoi.
Ouais.
Ou bien alors, ce sont les grandes légendes persanes.
C'est ça.
Mais le miroir pour réfléchir.
Ah, oui. Vous savez ce que disait Cocteau. Les miroirs feraient bien de réfléchir un peu avant de nous renvoyer notre image.
Ouais.
Oui, eh ben, le miroir, c'est encore un grand sujet et qui est constamment dans la tradition persane. Et souvent d'une façon incompréhensible. Je vais vous en donner un exemple. Un homme, alors là on retrouve notre couple, ça c'est, je vous dis, un conte persan, hein, tel qu'il est. Et j'avoue, je ne le comprends pas très bien. Il faut que je réfléchisse beaucoup, que je le raconte, comme je suis en train de le faire. Vous voyez, je suis en train de vous prendre pour des lycéens et vous essayez.
Je le suis.
Eh bien, allons-y. Un homme est marié avec une femme depuis 20 ans. Il ne la voit plus. Il ne lui trouve plus aucun charme. Et un jour, il passe derrière elle, alors qu'elle est devant son miroir, en train de se refaire une beauté. Et passant derrière elle, il la voit de face dans le miroir. Il est bouleversé par la beauté de cette image qu'il voit dans le miroir. Alors il s'arrête, il prend sa femme par les épaules, il lui fait faire demi-tour, il la regarde, il n'y a plus rien. Enfin, voilà. Ça, c'est un conte persan. J'avoue que je ne le comprends pas très bien.
Si, il l'a vu dans le miroir.
Oui, mais
parce
c'est
que
la
là,
même.
Il a eu une image. Non, ça n'est pas la même.
Ah, bah,
autrement,
oui.
Ce serait la vie.
Ben oui,
tandis
ben
que
voilà.
Là, c'était une invention de la vie.
Voilà.
C'était une photographie de la vie. Vous savez, il y a une très belle expression, Lao Tzu, le philosophe, qui dit « La façade d'une maison n'appartient pas à celui qui la possède, elle appartient toujours à celui qui la regarde. »
Oui, ben voilà, c'est admirable. Alors, j'ai une autre histoire. Je peux vous raconter des petites histoires que je n'ai pas encore mises dans aucun livre, parce qu'elles sont trop récentes.
Vous les avez dans les tiroirs ? Ou dans la tête ?
Dans la tête. Puis je les essaye, comme je suis en train de le faire maintenant, n'est-ce pas ? Notamment sur les enfants. Deux miroirs se promènent. Vous savez que Stendhal avait dit qu'un roman est un miroir que l'on promène le long d'une route. Alors deux miroirs se promènent le long d'une route et s'arrêtent nez à nez l'un en face de l'autre et se regardent. Alors il y a un silence, puis il y en a un qui dit « Tu vois quelque chose ?» et l'autre dit « Non, le premier, moi non plus. » Alors il y a encore un silence. Et puis il y en a un qui dit « Je me demande bien ce que toutes ces bonnes femmes peuvent nous trouver d'intéressant à nous regarder comme elles le font. » Voilà.
Il faut l'écrire maintenant.
Ah bah, si vous voulez.
Ça passe par les mots.
Oui, mais je vais l'écrire un peu mieux que ça. Le dialogue doit être un petit peu étudié encore, vous voyez.
Michel Tournier, une nouvelle doit avoir un commencement et doit avoir nécessairement une chute.
Absolument. Moi, une je chute. Suis absolument
Parce qu'il y a des nouvelles qui n'ont pas de chute.
Eh bien oui, bah, c'est une erreur. Je suis contre la nouvelle atmosphérique.
Je suis volé dans
absolument.
Ce cas-là.
Je suis contre la nouvelle atmosphérique. Vous savez, dans certains très mauvais films, pour donner une impression de poésie, on fait flotter de la fumée sur le sol, vous voyez. Eh bien, la nouvelle ne doit pas être comme ça. La nouvelle est un genre réaliste où tout doit être très net, comme une photographie piquée, vous voyez.
Alors, une autre nouvelle qui est importante, Le mendiant des étoiles, c'est un thème qui apparaît déjà dans Aventure africaine. Il ne suffit pas de donner. Il faut quelqu'un à qui donner.
Oui.
Et cela revient dans beaucoup de vos nouvelles, peut-être dans certains de vos livres, et en tout cas dans beaucoup de vos conversations, Michel Tournier.
Oui.
Et c'est presque la condition, peut-être tout à fait particulière, du célibataire.
Ça ne sert à rien.
Le célibataire, l'homme qui vit, vous êtes un solitaire. Même si vous êtes très entouré.
Il ne peut
même
que
si
faire des cadeaux aux gens, et qui n'a pas d'obligation.
Mais à qui ?
Mais voilà. Voilà, vous comprenez ?
Moi, je vais vous faire une liste, moi.
Mais non, mais ce serait une fausse liste. Ce n'est pas si simple. Pour recevoir, il faut autant de générosité et de richesse intérieure que pour donner. Et c'est extrêmement simple. Vous avez une parabole des évangiles qui est la plus extraordinaire, la plus violente, la plus bizarre, la plus dérangeante qui soit. C'est dans Saint-Luc, je crois. C'est l'homme riche qui veut inviter ses amis à un dîner. Vous voyez, on retrouve le médianoche. Un dîner, mais admirable, vraiment, succulent, une chose étonnante. Alors, tout est prêt et les amis ne viennent pas. Alors, il envoie ses serviteurs voir ce qui se passe. Et chacun s'excuse. Il y en a un qui est malade, il y en a un autre qui marie sa fille, il y en a un troisième qui a une affaire. Bref, tout le monde le laisse tomber et il reste seul devant sa table. Et rappelez-vous que c'est un thème qu'on retrouve notamment dans Charlie Chaplin, La ruée vers l'or. Le pauvre petit Chaplin, misérable, a fait un souper de Noël pour des filles qu'il a rencontrées, n'est-ce pas ? Et puis elles ne viennent pas. Il est tout seul devant sa nappe blanche. Et il s'endort sur la nappe et il rêve qu'elles viennent. Et il leur fait la danse des petits pains, voyez ? Le drame de l'homme qui veut donner et qui n'a personne à qui donner. Et la parabole est extraordinaire parce qu'alors il envoie ses serviteurs dans les rues. « Allez, ramenez-moi tous les clochards que vous trouverez. » Tous les types qui sont bancals, borgnes, scrofuleux, etc. Alors on imagine cette scène, imaginez un palais somptueux, une table admirable, le seigneur dévoré de chagrin et de dépit, et tout autour de la table, d'incroyables pochards, n'est-ce pas, qui rigolent avec des gueules ébréchées, etc. Quel spectacle !
Mais vous vous mettez à chaque fois en scène, Michel Dornier, parce qu'à chaque fois, si vous prenez des thèmes qui vous concerne,
qui m'intéresse, moins,
qui vous, qui, mais que vous vivez aussi de très près. Et puis vous êtes concerné aussi par la beauté, par la laideur. Et je reviens un peu à la première nouvelle. Il y a Nadège, et on a choisi ce prénom parce que c'est un beau prénom. C'est-à-dire lorsqu'on s'appelle Nadège, qu'une fille s'appelle Nadège,
il faut qu'elle soit belle.
Il faut qu'elle soit belle.
Si elle est laide, c'est absolument impossible de porter un nom pareil si on est moche.
Encore faudrait-il savoir ce qu'est la beauté, ce qu'est la laideur. Et vous dites, oui, les femmes devraient militer pour qu'on leur accorde, comme aux hommes, le droit à la laideur. Et ça, c'est vrai.
Oui. Et vous savez ce que disait un jour Françoise Giroud. Elle dit « Le machisme n'existera plus le jour où une femme sera nommée à un poste important malgré son incompétence évidente. » Ce qui est le cas pour de nombreux hommes. Mais les femmes, jamais. Pour qu'une femme ait droit à un poste important, il faut qu'elle soit d'une compétence fantastique. Eh bien, moi, j'ajouterais, et malgré une laideur repoussante, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit obligé d'être beau. Après tout, si on veut être moche, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et par exemple, vous avez cette habitude ignoble qui consiste à ne pas demander à une femme son âge au-dessus, disons, de 25-30 ans, c'est-à-dire quand elle est devenue adulte. Ce qui a l'air de supposer que l'âge est une maladie honteuse pour les femmes, pas pour les hommes, et qu'une femme adulte est tout juste bonne à être jetée à la poubelle parce qu'elle a cessé d'être un objet frais et désirable. C'est scandaleux. Bon, allez, c'est absolument.
Alors, votre Nadège a épousé un marin.
Oui.
Alors, je veux bien que ce soit un terme de marine, mais lorsqu'il lui dit « tu es belle comme une morue », vous allez un tout petit peu plus loin.
Non, alors là, je m'explique.
Je comprends pas. Alors là, je ne suis pas tellement d'accord. Tu es belle comme une morue, vous auriez pu trouver autre chose.
Oui, oui, oui. Non, c'est très, au contraire. Le marin est un ancien pêcheur d'Islande, c'est un ancien morutier. Elle est la fille d'un armateur.
D'ailleurs, elle ne le prend pas mal.
Mais non, justement, parce qu'elle est la fille de l'armateur. Elle a toujours vécu dans la morue. Et n'oubliez pas que l'expression, quand on dit d'une femme que c'est une morue, c'est-à-dire une putain, ça vient des pêcheurs d'Islande, qui disaient entre eux, va dans telle ville, va dans tel bordel, tu verras, il y a des morues absolument formidables. C'était pour eux un terme laudatif, exactement comme un arabe qui dira d'une femme qu'elle ressemble à un chameau merveilleux, vous comprenez ? Pour nous, c'est choquant, mais d'ailleurs, un chasseur appellera couramment sa femme ma biche, ou lui donnera un nom de gibier, quoi.
Alors, je reviens, Michel Dornier, quand même, à une autre nouvelle, Lucie ou la femme sans ombre. Il est toujours question des femmes et des hommes. Et vous écrivez, les femmes sont aussi intelligentes que les hommes, mais elles sont plus connes. Mais vous le faites dire à Fabienne.
Oui.
Là encore, vous engagez. Je continue. Car il y a l'intelligence et il y a, disons, la non-intelligence. Mais là, justement, il faut distinguer. On dit tout de suite la bêtise. C'est vrai que la bêtise est une non-intelligence. Mais elle n'est pas la seule sorte de non-intelligence. La bêtise, comme le mot l'indique, est le propre de la bête, c'est-à-dire de l'animal opposé à l'homme.
C'est-à-dire qu'il y a l'absence d'intelligence qui est purement négatif. Et puis vous avez la présence de force qui crée de la bêtise, par exemple l'ambition, la rapacité, l'amour-propre, qui sont plus forts que notre intelligence et qui nous dictent un comportement stupide. Et alors puis, ça, c'est de la connerie.
Oui, mais il faut préciser aussi que connerie vient du mot latin
Cunus.
Qui veut dire
les parties sexuelles de la femme.
Vous essayez quand même.
Mais il y a quand même beaucoup d'hommes cons.
Oui.
Ça, alors.
Mais vous ne le dites pas, vous ne l'écrivez pas.
Pas de cette manière.
Écoutez, par exemple, la connerie de l'homme s'exprime particulièrement au volant de sa voiture. Mmh. Hein. Ça, alors, le macho au volant de sa voiture, c'est typiquement la connerie masculine, beaucoup plus que féminine.
Alors maintenant, on pourrait se demander ce qu'il y a de tout à fait vrai dans vos histoires.
Ah, c'est une question qui m'est posée quelquefois par les enfants. Qu'y a-t-il de vrai dans vos histoires ?
Dans toutes les histoires, d'ailleurs.
Terrible, tous les romans. Vous savez que. La notion de vérité romanesque, n'est-ce pas ? Le mentir vrai d'Aragon,
oui.
C'est absolument terrifiant. Alors le jour où un gosse m'a dit ça, « Qu'y a-t-il de vrai dans vos histoires ?», j'ai fait demi-tour et j'ai été au tableau noir et j'ai écrit une phrase de Cocteau. « Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité. » Voilà. Et je lui ai dit, « Mes enfants, notez ça hein, dans vos cahiers, apprenez cette phrase par cœur. Bon, vous mettrez peut-être des années à l'assimiler, mais apprenez-la par cœur, elle est chouette. C'est un des plus grands poètes français et elle vous servira un jour ou l'autre. » Et je crois que c'est la réponse. Le roman ou la nouvelle ou le conte sont des mensonges qui disent la vérité. Mais quelle vérité ? Voilà le problème.
En tout cas, dans tous vos livres, et c'est, je crois, la mission de l'écrivain, vous vous posez des questions. Et le plus important, c'est de savoir si ces questions obtiennent des réponses, par rapport à vous-même.
Oui, je raconte surtout des histoires. Alors, de ces histoires jaillissent des questions. Parce que, n'est-ce pas, le conte est une histoire qui a une philosophie sous la table, n'est-ce pas ? C'est de la philosophie de contrebande, le conte. On vous raconte une petite histoire comme ça qui n'a l'air de rien. Et puis, en fait, on cherche qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, car on sait que ça veut dire quelque chose. Alors que la nouvelle est plate, réaliste, c'est un constat. Le conte, il y a une signification cachée. Et si vous voulez, je vous raconte en 2 minutes un conte que je n'ai pas encore écrit.
Juste 2 minutes.
2 minutes. Et vous allez voir comme c'est difficile à interpréter, comme c'est excitant à interpréter. Le lion a reçu un coup de corne.
Oui.
Mais le lion est le roi. Il condamne donc tous les animaux à corne à l'exil. Et ils s'en vont. Et alors, il y a un grillon sur une borne frontière du royaume qui voit passer ce cortège de vaches, de cerfs, de rhinocéros. Et il y a même une licorne. On prétendait que la licorne n'existait pas. Ben, il y en avait une, parce qu'elle avait une corne, elle s'en allait. Et le grillon voit passer tout ça. Et dans la foule, il reconnaît un lièvre. Alors, il l'interpelle. Il lui dit, « Oh, lièvre, pourquoi pars-tu ? Tu n'as pas de corne. » « Non, dit le lièvre, je n'ai pas de corne, mais j'ai des oreilles. » « Oh, dit le grillon. » Mais des oreilles, ce ne sont pas des cornes. Ah, dit le lièvre, mais comment le prouver ? Voilà. Alors, dans mon idée, je raconte ça, et mon interprétation à moi, c'est que le lièvre est un pauvre type. Il a l'habitude d'être pourchassé et tout, n'est-ce pas ? Et il y a un gosse qui m'a dit, il se vante. Il veut faire croire que ses oreilles sont des cornes. Vous voyez comment on peut interpréter différemment un conte ?
Et maintenant, je suis persuadé que vous allez partir pour la Chine, peut-être écrire un livre où il y a toute une histoire, puis aussi revenir en Allemagne, pour poursuivre votre enquête, car ce qui se passe à l'Union soviétique, l'Allemagne de l'Est.
Ah, l'Allemagne de l'Est,
c'est ce qui se passe à l'Union soviétique.
Passionnant.
Est tout à fait étonnant. Merci Michel Tourné. Je rappelle que nous étions aux Tuileries, dans ce dernier étage, dans cette tour, en face de la pyramide du Louvre. Et je recommande ce livre qui paraît chez Gallimard, cette suite de contes et de nouvelles, Le Médianoche amoureux.